Chers frères et sœurs de Sainte Bernadette, depuis le dimanche de Pâques et jusqu'à la Pentecôte, la liturgie propose une lecture continue des Actes des Apôtres, le dimanche et en semaine. La lecture de dimanche dernier nous présentait, de façon idéale, la vie de l'Église à Jérusalem. Les problèmes et les crises ne vont pas tarder à arriver. Mais, dans la lecture d'aujourd'hui, les apôtres enseignent, unanimes, sous le portique de Salomon, au temple, là où justement Jésus avait enseigné. Je vais prendre ce récit verset par verset parce que ce sera plus facile de suivre. Verset 17. Alors intervient le grand prêtre et tout son entourage. Pourquoi intervient-il ? Les versets précédents nous renseignent. Parce que les apôtres accomplissent signes et prodiges, parce que le peuple fait leur éloge, et parce que des multitudes se rallient aux apôtres. Le grand prêtre, et il n'est pas le seul, est inquiet et même jaloux. Toujours ce verset 17, « Alors intervient le grand prêtre ainsi que tout son entourage, c'est-à-dire le groupe des Sadducéens qui était rempli d'une ardeur jalouse pour la loi. » Voici décrite ce qui caractérise les Sadducéens, une ardeur jalouse pour la loi. Les Sadducéens forment une classe supérieure de prêtres et de laïcs. Ils ont la majorité au Sanhédrin. Contrairement aux pharisiens, ils ne connaissent que la loi écrite et de façon fondamentaliste. Ils nient la résurrection. Ils ont mis le temple et la loi au service de leur pouvoir et ont tout intérêt à ce que rien ne change, rien ne bouge, cela sous couvert de fidélité à la loi telle qu'ils l'entendent. Ils vivent en bonne entente avec les Romains, ce qui leur attire beaucoup d'ennemis dans le peuple. Ce sont eux qui portent la responsabilité de la condamnation à mort de Jésus. Verset 18. Ils mirent la main, ils, c'est-à-dire le grand prêtre et le Sanhédrin, ils mirent la main sur les apôtres et les placèrent publiquement sous bonne garde, c'est-à-dire en prison et gardés. Les apôtres, je vous le rappelle, se tenaient tous unanimes sous le portique de Salomon, là où Jésus avait enseigné. Tous unanimes, parlant d'une seule voix, celle du Christ. Belle unanimité que nous aimerions retrouver entre tous les chrétiens. Nous avons tant à apprendre les uns des autres. C'est alors que les autorités du temple mettent la main sur eux. Cette expression est très forte, violente même. Un tout petit peu d'histoire pour mieux comprendre les versets qui suivent et qui sont assez déroutants. Luc se permet d'être particulièrement critique et même sarcastique envers le temple et les autorités religieuses, car, quand il écrit les actes, aux alentours, pense-t-on, de l'an 80, voici une dizaine d'années que le temple et ses responsables ont disparu. En effet, Titus a détruit le temple de Jérusalem en 70, destruction qui a entraîné la fin des Sadducéens et de tout le personnel du temple. Et quand Luc écrit, il relie l'histoire des premiers chrétiens à la lumière de la destruction programmée du temple. Et surtout, il fait voir en filigrane, à travers les événements qui se succèdent, le chemin du Christ, de sa condamnation à sa résurrection. Et c'est ce chemin-là que suivent les 12 apôtres. Verset 19, nous rappelons que les apôtres ont été mis en prison, mais pendant la nuit, l'ange du Seigneur ouvrit les portes de la prison et les fit sortir. L'ange du Seigneur apparaît souvent dans la Bible, marchant à la tête du peuple de Dieu. Comme les Juifs ne prononcent pas par respect le nom de Dieu, C'est aussi une façon de dire l'action de Dieu. L'ange fait sortir les prisonniers comme Dieu a fait sortir son peuple d'Égypte. Un ange du Seigneur avait aussi annoncé aux femmes la délivrance du Christ à la résurrection, sa résurrection. Verset 20, c'est l'ange qui parle, il leur dit « Partez, tenez-vous dans le temple et là, dites au peuple toutes ces paroles de vie. » Partir, quitter la prison où ils étaient enfermés, comment ? C'est apparemment impossible. S'ils partent, quel pied de nez pour le grand prêtre et les Sadducéens ? Et partir pour aller, qui plus est, selon la parole de l'ange, dans le temple dont l'accès était rigoureusement réservé aux seuls hommes et pas n'importe lesquels, ceux qui y avaient droit selon leur statut religieux, civil et social. Et cela seulement dans les espaces qui leur étaient réservés. Les apôtres, cependant, avaient l'habitude de se tenir devant le temple. Et pourtant, dans le temple, les apôtres se retrouvent à enseigner, au nez et à la barbe des officiels, dans le temple, lieu de louange, mais aussi de sacrifices sanglants, lieu de trafic où l'or et l'argent circulent. La fin du verset 20, les anges ont dit aux apôtres, et là, dans le temple, dites au peuple toutes ces paroles de vie. Sans plus de précision, quelles paroles de vie ? Celles que nous donne la Bible ? Celles donc de Jésus ? Celles qu'en son nom nous professent les apôtres d'hier et d'aujourd'hui ? Celles que l'Esprit met dans la bouche de ceux qui annoncent, en humilité et en vérité, au nom de Dieu, la bonne nouvelle du salut. Verset 21. Ils, les apôtres, écoutèrent l'ange. Dès l'aurore, ils entrèrent dans le temple et là, ils enseignaient. Les apôtres ont entendu la parole de l'ange et ils enseignent dans le temple dès l'aurore, après la nuit donc, après les ténèbres, ils enseignent les paroles de vie. À l'insu du grand prêtre et de son entourage, qui ne savent toujours pas, oui, ce qu'ils pensent toujours en prison, peut-être parce que ces derniers ne peuvent les entendre. Les voilà justement, le grand prêtre et son entourage, qui arrivent, sans se douter de quoi que ce soit, peut-être sourds et aveugles. Verset 21, alors arriva le grand prêtre, ainsi que son entourage, ils convoquèrent le conseil suprême, toute l'assemblée des anciens d'Israël, et, suprême malentendu, ils envoyèrent chercher les apôtres dans leur cachot. Le grand prêtre et son entourage, même entourés de tous les sages, de toutes les compétences des anciens d'Israël, sont aussi sourds et aveugles que ceux qui ne comprennent pas le sens des paraboles de Jésus. Luc les couvre de ridicule. Ceux qu'ils cherchent, les 12 apôtres, sont là. Ironie mordante du narrateur. Les rapprochements entre les apôtres et le Christ se font de plus en plus précis pour signifier que maintenant, c'est aux apôtres de prendre le chemin tracé par le Christ. C'est maintenant le temps d'ouvrir le temple à tous, prêtres, hommes et femmes, bien-pensants et exclus, malades et bien portants. C'est maintenant le temps favorable pour édifier une église de pierre vivante qui casse les vieux murs. Et maintenant, ce n'est pas une surprise pour le lecteur, mais c'en est une incroyable pour les gardes, verset 22, en arrivant, les gardes ne trouvèrent pas les apôtres, à la prison où ils les avaient enfermés. Panique, les prisonniers ont disparu. En écho de la disparition du corps de Jésus et de la panique des femmes. Les gardes, verset 23, les gardes revinrent donc annoncer. Nous avons trouvé le cachot, parfaitement verrouillé, et les gardes en fonction devant les portes. Mais quand nous avons ouvert, nous n'avons trouvé personne. personne à l'intérieur. Incompréhension des gardes, mais compréhension pour nous, ce qui était resté caché aux yeux des hommes nous est révélé. De même que le Christ, Verbe de Dieu, ne pouvait rester au tombeau, les apôtres, héros de la parole de Dieu, ne pouvaient rester en prison. La parole de Dieu franchit les murs des prisons que construit l'homme. Au verset 24, ayant entendu ce rapport, le commandant du temple et les grands prêtres, tout perplexes, se demandaient ce qu'il adviendrait de cette affaire. La perplexité des autorités religieuses juives ressemble à celle des femmes revenues du tombeau. Nous entendons cette même perplexité à la Pentecôte. C'est celle de la foule déconcertée, entendant parler les apôtres à la Pentecôte. Qu'est-ce que cela veut dire ? Face à ce genre de perplexité, les autorités sont impuissantes. Verset 25. Là-dessus, quelqu'un vint leur annoncer : les hommes que vous aviez mis en prison, voilà qu'ils se tiennent dans le temple et enseignent le peuple. Coup de théâtre qui ridiculise le Sanhédrin. Les apôtres enseignent au temple, au nom de Jésus, ce qui leur avait été interdit et ce pourquoi ils étaient en prison. Verset 26. Alors le commandant partit avec son escorte pour les ramener, mais sans violence, parce qu'ils avaient peur d'être lapidés par le peuple. Retournement de situation, ce ne sont plus les apôtres, mais les gardes qui menacent d'être lapidés. Or, la lapidation était le châtiment de celui qui maudissait Dieu. Les gardes envoyés par le grand prêtre et les sadducéens maudiraient-ils Dieu ? Y aurait-il des Sanhédrins aujourd'hui qui maudiraient Dieu ? Quel titre donner à ce récit ? Supercherie à Jérusalem ? Provocation au temple ? Magie, miracle, merveille de Dieu ? Peu importe que ce genre de libération par un messager céleste existe dans la littérature antique et dans les écrits juifs. Les libérations dites miraculeuses démontre l'impuissance des adversaires. Effectivement, le Sanhédrin est impuissant devant Dieu. Elle démontre aussi la vérité et la force de vie de ce qu'on avait voulu enfermer. Or, aucune prison ne peut empêcher la parole de sortir, de faire vivre, de se répandre. L'évangélisation s'étend désormais dans le temps et l'espace, c'est ce dont témoignent les Actes des apôtres. Vous n'avez peut-être pas oublié les paroles de vie que l'ange avait demandé aux apôtres de dire, sans préciser lesquelles, au verset 20. Il leur avait dit « Partez, tenez-vous dans le temple, et là, dites au peuple toutes ces paroles de vie. » Ces paroles de vie ne pourraient être celles de l'évangile de ce jour en Jean. Dieu a tellement aimé le monde qu'il nous a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Si vous aviez envie de continuer à résoudre de telles énigmes, allez chercher ce que cache la libération de Pierre, dans les Actes chapitre 12, versets 4 à 10, ou celle de Paul, dans les Actes chapitre 16, versets 25-34. Bonne recherche en vue de résurrection.